Bonjour et bienvenue pour une nouvelle semaine de l'émission Je vous emmène, donc en montagne, pour la suite des 8 montagnes de Paolo Cognetti. Je vous retrouve aujourd'hui pour le chapitre 5 et sa deuxième partie. Dans la première partie du chapitre, nous avions vu qu'à la mort du père de Piero, celui-ci avait hérité d'une petite maison sur les hauteurs de Grana. Et là, nous retrouvons Piero qui est retourné à Grana et va retrouver Bruno après de longues années. Bruno vint me chercher au petit matin. C'était un homme que je ne connaissais plus, mais qui renfermait quelque part en lui un petit garçon que je connaissais bien. « Merci pour le feu, lui dis-je. Il n'y a pas de quoi, dit-il. » Il me serra la main sur le balcon et prononça une de ces phrases rituelles auxquelles j'avais dû m'habituer ces deux derniers mois et que je n'écoutais plus. De vieux amis s'en seraient passés, mais qui aurait pu dire ce que nous étions désormais, Bruno et moi? Je trouvais en revanche plus franche la poignée de sa main droite, qui était sèche, rêche, calleuse et avait quelque chose d'inhabituel que je ne m'expliquais pas. Il remarqua ma gêne et la leva pour me la montrer. C'était une main de maçon dont les dernières phalanges de l'index et du majeur manquaient. « T'as vu ça ? » dit-il. « Un jour, j'ai voulu faire le malin avec le fusil de mon grand-père. Je voulais tirer sur un renard et bam ! J'y ai laissé mes doigts. Il t'a explosé dans les mains ? Pas vraiment. Problème de gâchette. Aïe, dis-je, ça a dû faire un de ces mal. » Bruno haussa les épaules, comme pour dire qu'il y avait pire dans la vie. Il regarda mon menton et me demanda « Tu la rases jamais, ta barbe ?»« Ça doit faire 10 ans, répondis-je, en la caressant. Une fois, j'ai essayé de la laisser pousser, moi aussi. Mais j'avais une copine et tu sais comment c'est. Elle aimait pas ? Pas du tout. Toi, par contre, ça te va bien. On dirait ton père. » Il sourit en le disant. Comme nous faisions tout notre possible pour briser la glace, je m'efforçais de ne pas m'arrêter sur le sens de sa phrase et lui rendis son sourire. Puis fermai la porte et partis avec lui. Le ciel dans le vallon était bas et chargé des nuages du printemps. On aurait dit qu'il venait tout juste d'arrêter de pleuvoir et que ça pouvait reprendre d'une seconde à l'autre. Même la fumée avait de la peine à s'élever au-dessus des cheminées. Elle glissait le long des toits humides, partait en volute dans les gouttières. Dans cette lumière froide, au sortir du village, je retrouvais chaque baraque, chaque poulailler, chaque tas de bois, comme si personne n'avait plus touché à rien depuis que j'étais partie. Ce qui par contre avait changé du tout au tout, je ne tardais pas à le voir, après les dernières maisons. En contrebas, la grève du torrent était 2 fois plus large que dans mes souvenirs. À croire qu'une charrue gigantesque l'avait retournée de frais. Il coulait entre de larges bandes de cailloux qui lui donnaient un air exsangue, même en plein dégel. « T'as vu ?» dit Bruno. « Qu'est-ce qui s'est passé ? L'inondation de 2000, t'as déjà oublié ?» Il y a eu tellement d'eau qu'on a dû nous évacuer en hélicoptère. Un excavateur s'affairait plus bas. Où étais-je, moi, cette année-là? Si loin physiquement et mentalement que je n'avais même pas su pour l'inondation de Grana. Le torrent était encore encombré de troncs d'arbres, de poutres, de blocs de ciment, de débris de toutes sortes qui avaient été charriés jusqu'au pied de la montagne. À ses boucles, les berges érodées laissaient voir les racines des arbres, qui se projetaient à la recherche de la terre qui s'était dérobée. Notre vieux petit fleuve me fit bien de la peine. Mais un peu plus haut, non loin du moulin, je remarquais une grande pierre blanche, plate, en forme de roue, échouée dans l'eau, qui me remonta le moral. Elle aussi, c'est l'inondation qui l'a emportée. « Eh non !» dit Bruno. « Elle, je l'ai balancée avant. »« Quand ça ? Pour fêter mes 18 ans. » Et comment t'as fait ton affaire ? Avec le cric de ma voiture. Je ne pus retenir un sourire, imaginant Bruno qui entrait dans le moulin, armé de son cric, et en moins de 2, la meule qui sortait par la porte et commençait à dégringoler la pente. J'aurais aimé être là pour voir ça. « Et c'était beau ?» demandai-je. « Magnifique !» Bruno sourit à son tour. Puis nous nous mîmes en marche en direction de ma propriété. Nous montâmes beaucoup plus lentement qu'autrefois, parce que j'étais loin d'être en forme et que le soir d'avant, j'avais fini par boire de trop. En traversant le vallon dévasté par les eaux, les pâturages le long de la rive réduits à des étendues de sable et de cailloux, Bruno devait constamment se retourner, s'étonner de me voir si loin derrière, s'arrêter pour m'attendre. Entre deux quintes de toux, je lui dis « Vas-y si tu veux, je te rejoins. » « Non, non, » dit-il, comme s'il se sentait investi d'une mission précise et qu'il devait la mener à bien. L'alpage de son oncle avait lui aussi connu des jours meilleurs. Quand nous arrivâmes à sa hauteur, je vis que le toit d'une des baïtés s'était effondré, ployant vers l'extérieur le mur qui soutenait les poutres. Visiblement, une bonne chute de neige aurait suffi à lui donner le coup de grâce. La baignoire renversée restait à rouiller à l'extérieur de l'étable, et les portes avaient été sorties de leurs gonds et jetées contre les murs. Comme dans la prophétie de Luigi Guglielmina, les premiers petits mélèzes pointaient de toutes parts. Qui sait combien d'années il leur avait fallu pour pousser, et qui sait ce qui était arrivé à l'oncle. J'aurais voulu le demander à Bruno, mais il ne s'arrêta pas. Nous dépassâmes l'alpage et nous continuâmes notre chemin sans un mot. Derrière les baïtés, l'inondation avait porté le coup le plus grave. En contre-haut, là-haut où les vaches montaient au plus chaud de la saison, la pluie avait emporté tout un pan de montagne. Le glissement de terrain avait entraîné avec lui arbres et rochers, un charriage de matériel instable qui, même 4 ans après, se dérobait sous nos pieds. Bruno continuait d'avancer sans un mot. Il ouvrait la voie, enfonçant ses chaussures dans la boue, sautant de bloc en bloc ou marchant en équilibre sur les troncs tombés, et il ne se retournait pas. Quand l'ébouli fut derrière nous, que le bois nous accueillit de nouveau, il retrouva enfin la parole. « Déjà qu'il ne passait pas grand monde ici, dit-il, maintenant qu'il n'y a plus de sentier, je dois être le seul. Tu viens souvent ?»«
Oui, le soir. »«
Le soir ?»«
Quand j'ai envie de faire un tour après le travail, je prends ma frontale au cas où la nuit tombe. »
« Y en a qui iraient au bar ?»«
Ouais, j'y suis bien assez allée au bar. C'est bon. Maintenant, je préfère le bois. »
Je posais la question interdite, celle qu'on ne pouvait poser du temps où on marchait avec mon père.
« C'est encore loin ?»«
Non, non. Par contre, on va bientôt trouver de la neige. » Je l'avais déjà remarqué à l'ombre des rochers, de la vieille neige sur laquelle il avait plu et qui se transformait en bouillie. Mais plus haut, quand je relevais la tête, je la vis qui tachait les pierrailles et s'étalait, remplissant les bassins du Grenon. Sur toute la face nord, c'était encore l'hiver. La neige épousait les formes de la montagne comme sur le négatif d'une pellicule, avec le noir des rochers qui se chauffaient au soleil et le blanc de la neige qui survivait dans les zones d'ombre. Je me faisais cette réflexion au moment où nous arrivâmes au lac. Comme la première fois, il me prit par surprise.
« Tu te souviens de cet endroit ?» dit Bruno.
« Eh oui.
Et ça n'a rien à voir avec l'été, hein ?»«
Non. » Notre lac en avril était encore recouvert d'une couche de glace, d'un blanc opaque, veiné de fissures bleues, comme celles qui se forment sur la porcelaine. Il n'y avait pas de sens géométrique dans les fêlures, ni de ligne de fracture compréhensible. Ça et là, des plaques s'étaient relevées sous les cogniers de l'eau. Et le long des rives au soleil, on voyait déjà les premières nuances de noir. L'été qui commençait. Mais lorsqu'on embrassait tout le bassin du regard, on croyait voir deux saisons. D'un côté les pierrailles, les taches de genévrier et de rhododendron, les rares arbustes de mélèze. De l'autre, le bois et la neige. Sur ce côté, le sillage d'une avalanche traversait le Grenon et finissait dans le lac. Bruno allait justement dans cette direction. Quittant la rive, nous commençâmes à remonter la pente sous la neige, une croûte gelée qui résistait presque toujours sous nos chaussures, mais cédait parfois d'un coup. Quand elle cédait, nous nous enfoncions jusqu'aux cuisses. À chaque faux pas,
Nous devions faire des pieds et des mains pour remonter à la surface. Et il nous fallut une demi-heure de cette marche boiteuse avant que Bruno ne nous accorde une pause. Il trouva un muret en pierre qui dépassait de la neige, monta dessus et secoua ses chaussures en les battant l'une contre l'autre. Moi, je m'assis sans me soucier de mes pieds mouillés. Je n'en pouvais plus. Je ne demandais qu'à retourner devant le poêle, manger et dormir. « Nous y voilà, » dit-il. « Où ça ? » ?»« Comment ça, où ça ? » ?»« Chez toi ! » Ce n'est qu'à ce moment-là que je regardais ce qui m'entourait. Même si la neige modifiait les contours, on devinait que la pente formait comme une terrasse boisée. Une paroi de roche lisse, haute, inhabituellement blanche, tombait sur ce plateau tourné vers le lac. De la neige dépassaient les restes de trois murs à sec, taillés dans la même roche blanche, sur l'un desquels j'étais assis. Deux murs brefs et un long devant, 4 par 7, comme disait mon plan cadastral. Le quatrième était la paroi elle-même, celle qui avait fourni le matériau et soutenait les trois autres. Du toit effondré, il ne restait plus rien. Mais à l'intérieur de cette ruine, au milieu de la neige, un petit pin sambro avait trouvé moyen de pousser. Il s'était frayé un chemin parmi les débris et arrivait maintenant à la hauteur des murs. Le voilà, mon héritage. Une paroi de roche, de la neige, un tas de pierres de taille, un arbre. Quand nous sommes tombés sur cet endroit, c'était septembre, dit Bruno. Ton père a tout de suite dit « C'est elle que je veux ». On en avait vu tellement, ça faisait un moment que je l'accompagnais dans ses recherches. Mais elle, elle lui a plu du premier coup. C'était l'année dernière ? Non, non, ça fait 3 ans maintenant. Après, il m'a encore fallu retrouver les propriétaires et les convaincre. Ici, on ne vend jamais rien à personne. Garder une ruine toute sa vie, ça va, mais la céder à quelqu'un d'autre pour qu'il en fasse ce qu'il veut... Et lui, qu'est-ce qu'il voulait faire ?
Une maison, bien sûr.
Une maison ? Si je te le dis.
Mon père a toujours détesté les maisons.
Il a dû changer d'avis. Pendant que nous parlions, il s'était mis à pleuvoir. Je sentis une goutte sur le dos de ma main et vis que c'était de l'eau mêlée à de la neige. Le ciel aussi semblait balancer entre l'hiver et le printemps. Les nuages cachaient les montagnes et aplatissaient les choses. Mais même par un matin pareil, j'arrivais à saisir la beauté de l'endroit. Une beauté sombre, rude, qui n'inspirait pas la sérénité, mais la force, et un peu d'angoisse. La beauté de l'envers.
« Il a un nom, cet endroit ?» demandai-je.
« Je crois bien, oui. D'après ma mère, on l'appelait la Barmadrola, dans le temps. Elle se trompe jamais pour ça, les noms. Elle se les rappelle tous.
Barma, c'est le nom de cette roche.
Exactement.
Et drôle, ça veut dire étrange.
Étrange parce qu'elle est très blanche?
Je pense, oui.
La roche étrange, dis-je, pour voir comment ça sonnait. Je restais un moment assis à regarder autour de moi et à réfléchir au sens à donner à cet héritage. Mon père, alors même qu'il avait passé sa vie à fuir les maisons, avait caressé l'idée d'en construire une là-haut. Il n'avait pas réussi à venir au bout de son projet. Mais devant l'éventualité de la mort, il avait pensé me laisser cet endroit. Qui sait ce qu'il attendait de moi ?
Bruno dit « Cet été, je suis libre. »
Libre pourquoi ?
Pour travailler, non ?
Et voyant que je ne comprenais toujours pas, il expliqua. La maison, ton père l'a dessinée comme il la voulait lui. Et il m'a fait promettre que ce serait moi qui la construirais. Même qu'il était assis exactement là où tu es quand il me l'a demandé. Décidément, j'allais de surprise en surprise. La carte des sentiers, le rouge et le vert qui accompagnaient le noir. Je me dis que Bruno devait en avoir encore beaucoup, des histoires à me raconter. Pour ce qui était de la maison, si mon père en avait disposé ainsi, je n'avais pas de raison à m'opposer à sa volonté.
sauf une.
Je n'ai pas l'argent pour ça, dis-je. Ce que j'avais reçu de l'héritage avait servi à remettre à flot mes finances désastreuses. Il me restait bien encore un petit pécule, mais ça n'aurait pas suffi pour construire une maison. Et de toute façon, j'avais prévu d'en faire autre chose. J'avais un long arriéré de désir à exaucer.
Bruno acquiesça. Il s'attendait à cette objection et me dit « Il suffit qu'on achète le matériel. Et même là-dessus, je crois qu'on peut encore économiser. »
Oui, mais qui va te payer ?
T'inquiète, faut pas croire que c'est un travail qu'on fait pour l'argent.
Il ne m'expliqua pas ce qu'il voulait dire et j'allais pour le lui demander quand il ajouta.
Par contre, un coup de main ne serait pas de refus.
Avec un ouvrier, je pourrais boucler le chantier en 3-4 mois.
Qu'est-ce que t'en dis ? T'es partant ?
En pleine, j'aurais éclaté de rire. Je lui aurais répondu que je ne savais rien faire de mes mains et que je ne lui aurais été d'aucune aide. Mais j'étais assis sur un mur, planté au milieu de la neige, devant un lac gelé à 2000 mètres d'altitude. J'avais commencé à éprouver un sentiment d'inéluctabilité. Pour des raisons que j'ignorais, c'était là que mon père avait voulu m'amener. Sur cette terrasse rincée par les avalanches, sous cette roche étrange, pour travailler sur ce champ de ruines avec cet homme. Et je me dis,
d'accord, papa, pose-moi donc encore cette colle. Voyons ce que tu as préparé pour moi. Voyons ce qu'il me reste à apprendre.
3 ou 4 mois, demandai-je.
Mais oui, c'est une maison très simple.
Et quand penses-tu commencer ?
« Dès que la neige aura fondu, » répondit Bruno. Puis il sauta au bas du mur et entreprit de m'expliquer comment il comptait s'y prendre.
C'était Chantal Hébert sur Globule Radio. Cet enregistrement est réalisé à l'attention de tous nos anciens en EHPAD et à l'hôpital, et tous les soignants qui les accompagnent. À la réalisation, Kirsten Mackenzie, Jean-Claude Aragon.